Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Foi authentique, conversion et ouverture aux autres, telles sont les attitudes essentielles adoptées pour bien vivre le temps du carême. En ce mercredi des cendres, le pape François a invité les fidèles à sortir de leur routine et de leur situation de confort. Le Bangladesh a fait plusieurs fois la une des journaux l'année dernière après des catastrophes qui ont frappé des travailleurs entassés dans des usines. Des organisations catholiques suisses profitent du carême pour revenir sur cette situation dramatique. Nous en parlerons dans cette émission. La réunion tant attendue aura bien lieu. Tous les chefs des églises orthodoxes vont se retrouver à Istanbul autour du patriarche œcuménique. Objectif, préparer le concile panorthodoxe dont on parle depuis des décennies. Mais la crise ukrainienne risque de s'inviter dans les débats. Le carême est un temps approprié au renoncement. Privons-nous de quelque chose chaque jour pour aider les autres? Le pape François l'affirme dans un tweet publié le mercredi des cendres sur son compte @pontifex. Avant de se rendre dans la soirée sur la colline de l'Aventin pour la traditionnelle première station de carême, le Saint-Père a profité de l'audience générale hebdomadaire pour expliquer le sens de ce temps de prière intense et de pénitence qui commence le mercredi des cendres. Parmi les quelques 30 000 personnes présentes sur la place Saint-Pierre se trouvaient entre autres les membres de la faculté de théologie d'Angers. Compte rendu de la catéchèse du pape avec Hélène Destombes.
Vivere fino in fondo il battesimo.
Vivre pleinement notre baptême signifie ne pas nous habituer aux situations de dégradation et de misère que nous rencontrons sur nos routes. Pour le pape François, le carême est un temps providentiel pour changer de cap, pour réagir face à la réalité du mal qui nous défie toujours. C'est le temps favorable pour nous rapprocher de Dieu et nous convertir à l'amour envers le prochain. Car l'accoutumance au mal nous traque et anesthésie le cœur. On ne peut pas accepter passivement les attitudes antichrétiennes, la misère et la violence. Le Saint-Père évoque les souffrances des sans-abri qui dorment dans la rue, celles des réfugiés en quête de dignité et qui ne sont pas accueillis comme ils le devraient. Ce temps est bien choisi pour surmonter l'aveuglement d'une société qui met Dieu de côté. En ces jours qui nous préparent à célébrer le grand mystère de la Pâque, l'Église nous adresse deux invitations pressantes. Prendre une conscience plus vive de l'œuvre rédemptrice du Christ et vivre notre baptême de manière plus engagée, notre conversion est la réponse reconnaissante au mystère merveilleux de l'amour de Dieu. Enfin, le pape François a déploré que les parents n'enseignent plus aux enfants à prier ou à faire le signe de croix. Ils doivent s'interroger sur l'enseignement qu'il leur donne.
Pour la première fois, les exercices spirituels de carême de la curie romaine se dérouleront hors du Vatican. C'est le pape François lui-même qui l'a décidé pour favoriser le recueillement dans un lieu retiré et silencieux. Du 9 au 14 mars, le Saint-Père et ses collaborateurs, préfets, présidents et secrétaires de dicastère, se retrouveront, loin des bureaux où ils travaillent d'ordinaire, dans une maison religieuse de la Société Saint-Paul située dans le village d'Ariccia, au milieu des bois qui dominent le lac d'Albano, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Rome. Les méditations ont été confiées à un membre du clergé de Rome, Mgr Angelo de Donatis, curé de la paroisse romaine de Saint-Marc au Capitole. Traditionnellement, cette retraite se déroulait dans la chapelle Redemptoris Mater, au deuxième étage du palais apostolique. En plus des offices de prière, deux méditations d'une demi-heure chacune étaient proposées le matin, une autre l'après-midi. Souvent, les participants écoutaient les méditations puis reprenaient leur travail. Le pape François, qui veut donner davantage d'importance aux exercices spirituels, a décidé, conformément à l'esprit de Saint Ignace de Loyola, de favoriser l'isolement des responsables de la curie pour que chacun puisse consacrer 5 journées entières au silence et à la méditation. Et nous partons à présent pour la Suisse où les organisations Action de Carême, Pain pour le Prochain et Être Partenaire ont choisi de consacrer leur campagne de carême à l'économie durable pour s'interroger sur l'héritage laissé à nos enfants et petits-enfants. Et s'il y a un vêtement qui traverse les générations, c'est bien le jean. Ce dernier a été choisi pour illustrer l'affiche de la campagne. Un choix pour sensibiliser particulièrement les chrétiens de Suisse aux conditions de travail des ouvrières et des ouvriers du textile chargés de sa fabrication et notamment ceux des usines du Bangladesh. Christelle Deventéry est responsable du département formation à Action de Carême et porte-parole pour la Suisse francophone. Elle revient sur la situation dramatique vécue par les ouvriers du textile et les actions menées par la campagne de Carême pour aider à améliorer leurs conditions de travail.
Une ouvrière, à 80%, c'est des femmes qui travaillent dans l'industrie du textile, n'ont pas de contrat de travail, donc elles peuvent être licenciées n'importe comment. Lorsqu'il s'agit de défendre leurs droits, de répondre aux agressions de type sexuel qui sont très fréquentes, elles n'en ont pas l'occasion puisqu'elles ne sont pas protégées par un contrat. Le salaire permet de couvrir seulement 12% des dépenses normales d'une famille, donc c'est tout à fait insuffisant. Autre problème, c'est les heures supplémentaires. Ces femmes travaillent de 12 à 14 heures par jour. Ces heures supplémentaires ne sont pas payées. Et ça, c'est dû en majorité au fait que les commandes des entreprises de grande distribution sont faites toujours à la dernière minute avec des volumes qui ne sont pas prévisibles. La pression retombe en fait sur les ouvrières. Et puis encore une chose qui a touché le grand public, peut-être vous vous souvenez de l'effondrement d'un bâtiment du Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013. Où 1100 personnes ont perdu la vie. Ces ouvrières ont fait les frais en fait de conditions sanitaires et de sécurité qui sont absolument catastrophiques. Où on voit que finalement le prix de l'humain dans cette chaîne de production est très faible. Donc nos vêtements sont produits au prix de conditions de vie pour ces ouvrières qui sont vraiment préoccupantes. Et je pense que ça vaut la peine de se mobiliser ici pour qu'il y ait une amélioration là-bas.
Et justement, donc, qu'est-ce que vous avez prévu dans le cadre de cette campagne de Carême 2014 ?
De mettre en avant une initiative multipartite qui est la Fairwear Foundation, qui est un comité qui est formé autant d'entreprises privées que de syndicats, d'ONG, avec un poids égal dans les décisions. Et qui accompagne des entreprises qui ont envie d'améliorer les conditions de travail dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc les entreprises s'engagent à respecter 8 standards, notamment pas de travail des enfants, une liberté de s'associer pour défendre ses droits, des contrats de travail, la limitation des heures supplémentaires, un salaire minimal. Et très concrètement, on incite les citoyens à signer une pétition qui demande au CFF, c'est notre compagnie de transport national, d'adhérer à cette Fairwear Foundation. Voilà ce qu'on propose, c'est à tout un chacun de s'engager déjà dans une attitude plus consciente dans sa consommation, c'est-à-dire de réfléchir au moment où on achète un habit, quel est le chemin qu'a parcouru cet habit, est-ce qu'il y a un label qui garantit un certain nombre de conditions de travail. L'idée, c'est d'inciter à la fois à une action citoyenne et une action individuelle de consommateur, sur un comportement qui soit plus conscient et qui respecte des valeurs de base que tout un chacun devrait porter.
Christelle Deventéry, responsable du département formation à Action de Carême, interrogée par Audrey Radondi. Près d'un an après son élection, le pape François est revenu dans une longue interview au quotidien italien Corriere della Sera sur quelques aspects marquants de son magistère, de la vie de l'Église, de ses choix vis-à-vis de la curie et de ses relations avec son prédécesseur Benoît XVI. L'interview réalisée à la résidence Sainte-Marthe révèle aussi quelques aspects moins connus de l'évêque de Rome. C'est la troisième fois que le pape argentin accorde une interview à un quotidien italien. Olivier Bonnel.
Benoît XVI n'est pas une statue conservée dans un musée, c'est une institution. Nous n'étions pas habitués à une telle situation, mais cela se répétera peut-être. Le pape François s'exprime en toute liberté sur son prédécesseur, mais aussi sur ses propres goûts et points de vue. « J'aime vivre au milieu des gens, dit-il, je n'aime pas les interprétations idéologiques, je trouve offensant qu'on représente le pape comme une sorte de Superman. » Bref, il n'apprécie pas l'idéalisation de sa personne, une certaine mythologie du pape François. Quand on dit par exemple qu'il sort de nuit du Vatican pour aller donner à manger aux clochards, cela ne lui est jamais venu à l'esprit. Le pape n'est pas seul, il est entouré de collaborateurs et écoute ses conseillers, mais au moment de décider, il prend seul ses responsabilités. Dans cette interview, le pape François n'élude pas les thèmes qui fâchent, à commencer par le scandale des abus sexuels. À ce sujet, ses propos sont fermes, l'Église a fait beaucoup, elle est peut-être la seule institution publique à avoir agi avec transparence et responsabilité, et pourtant, elle est la seule à être attaquée, s'insurge-t-il, dans une allusion à un rapport très critique de l'ONU. Les sujets chauds de société sont également abordés. À propos des divorcés remariés, toute décision sera le fruit d'une réflexion profonde, dit-il. Le mariage, c'est un homme et une femme. Les unions civiles, justifiées par les États laïcs pour régler des aspects économiques, doivent être évaluées dans leur variété. Quand il évoque aussi l'encyclique Humanae Vitae, il défend Paul VI, qui a eu le courage de s'opposer au néo-malthusianisme, mais qui recommandait aussi beaucoup de miséricorde et d'attention aux situations concrètes.
Et j'ajoute que le Saint-Père explique avoir renouvelé son passeport argentin parce qu'il était arrivé à échéance et qu'il veut aller en Terre Sainte, en Asie et en Afrique, avant de retourner en Argentine, dont il ne ressent pas la nostalgie. Et le premier numéro d'un magazine consacré uniquement au pape François et dans les kiosques en Italie, la publication Il mio Papa sera tirée initialement à 3 millions d'exemplaires durant le premier mois. Le nouvel hebdomadaire aura, d'après ses éditeurs, une approche populaire, positive et colorée. Il sera facile à lire, présentera un grand nombre de photographies vivantes et apportera tout un ensemble de contributions destinées à mettre en lumière le message de l'évêque de Rome. Une réunion des patriarches et des archevêques de toutes les églises orthodoxes s'ouvrira ce jeudi à Istanbul. Elle a été convoquée par le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholoméos Ier, afin d'accélérer la préparation du concile panorthodoxe et son ouverture possible en 2015. Mais la crise ukrainienne risque de monopoliser l'attention et attiser les difficultés. Ces derniers mois, les troubles en Ukraine et les conséquences des révolutions arabes ont bouleversé le paysage de l'orthodoxie. En plus d'une fragilisation générale du christianisme en Orient, les conflits entre orthodoxes sont nombreux, de Prague à Jérusalem en passant par Kiev. Pour le patriarche de Constantinople Bartholoméos, qui dispose d'une primauté d'honneur sur 300 millions de chrétiens, tenir ce concile panorthodoxe est donc essentiel pour maintenir la communion entre ces églises. Nicolas Kazarian, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'IRIS et professeur à l'Institut Saint-Serge et à l'Institut catholique de Paris, nous livre son éclairage.
Le patriarche Bartholomé aujourd'hui est dans une volonté de vouloir accélérer les choses et de faire en sorte que ce concile puisse advenir. Je pense qu'il se considère comme étant le patriarche, et il peut certainement rentrer dans l'histoire à ce titre-là, le patriarche ayant réussi à convoquer le concile panorthodoxe. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est devant les différentes inerties, devant les lenteurs, du fonctionnement même de l'Église orthodoxe. Y arrivera-t-il? Ça, c'est la question, mais en tout cas, sa volonté est ferme. Il l'a d'ailleurs rappelé lorsqu'il est venu en France en janvier 2014. Il l'a rappelé en disant qu'il tenait à ce que le Concile puisse se réunir rapidement.
Alors cet œcuménisme inter-orthodoxe pose aussi la question de l'œcuménisme plus large. Est-ce que l'Église catholique est invitée? Est-ce qu'elle pourrait avoir des observateurs dans ce Concile? Est-ce qu'elle est associée à certains travaux de préparation?
Alors là, au point où en est le travail préconciliaire, je ne pourrais pas vous dire, mais il semble que se profile effectivement une association. Alors après, on verra selon la nature d'observateur ou pas observateur, les choses vont se définir avec le temps. Mais il est certain, en tout cas, que les travaux du Concile panorthodoxe devront prendre en considération les relations bilatérales avec l'Église catholique. On pourrait même penser que le Concile panorthodoxe devra lui aussi porter un message sur l'avancée des relations entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes. L'Église catholique et l'Église orthodoxe sont très proches dans l'exercice du dialogue et s'apprêtent, notamment avec le renouvellement à la tête de l'Église de Rome et l'arrivée du pape François, s'apprête à rentrer, dirons-nous, dans une nouvelle phase.
Et cette nouvelle phase, justement, quelle est la perception du pape François par les orthodoxes?
Elle est assez positive. Il faut dire que Benoît XVI aussi avait bonne presse parmi les orthodoxes, dans la mesure où il a été un grand connaisseur de la théologie patristique. Et on voit qu'il y a, d'une certaine manière, un prolongement assez naturel qui se fait dans la perception que les orthodoxes ont du pape entre Benoît XVI et François, pour des raisons totalement différentes. François, par sa simplicité, par son ouverture, et puis aussi, ne le cachons pas, il y a un tout petit peu de chauvinisme derrière tout ça, par les références que le pape François a pu faire à tel ou tel moment du fonctionnement de l'Église orthodoxe, notamment concernant la conciliarité, la synodalité, pour lequel le pape François souhaite associer plus généralement l'épiscopat dans des réflexions ecclésiologiques plus larges.
Parlons maintenant d'éléments d'actualité chaude, brûlante. D'abord, les révolutions arabes. Est-ce que finalement ces événements, ricochet, paradoxalement, ils ont permis de ressouder les patriarcats orthodoxes et de relativiser un peu les divergences, puisque là finalement tous sont d'accord pour dire que cette déstabilisation politique est dangereuse pour tous les chrétiens d'Orient ?
Tous sont effectivement d'accord pour le dire et je pense qu'il y a un véritable consensus qui aujourd'hui traverse les différentes églises orthodoxes pour dire que en tout cas pour ce qui est de la crise syrienne, qui est encore une crise prégnante dans les relations internationales, de dire qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse et il faut que lorsque une solution pérenne et pacifiée sera trouvée, que les chrétiens puissent trouver une position, une place particulière dans les sociétés démocratiques qui vont se reconstruire sur ce terreau de paix. Pour autant, nous voyons que ce contexte difficile d'affrontement au Moyen-Orient n'a pas réglé tous les différends qui pouvaient exister entre les patriarcats. J'en citerai un notamment. Il s'agit de savoir qui des patriarcats d'Antioche et de Jérusalem a la juridiction sur le Qatar. Et aujourd'hui, la question du Qatar est une vraie pierre d'achoppement dans les relations entre les deux patriarcats de Jérusalem et de Damas.
Autre sujet de conflit encore plus brûlant, évidemment, l'Ukraine. Est-ce que cette question ukrainienne peut venir ouvertement sur le tapis entre les patriarcats orthodoxes ? Est-ce qu'elle les préoccupe tout le monde ? Et est-ce que les liens du patriarcat de Moscou avec la présidence russe inquiètent, effraient certains ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation politique du sacré ?
À vrai dire, il y a toujours eu, une fusion ou une proximité entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel en Russie qui ne permettait pas forcément de faire bien la part des choses, pour ne pas parler d'instrumentalisation. La question ukrainienne est extrêmement complexe, d'abord parce que l'Ukraine est un pays diversifié. Le paysage chrétien est en lui-même extrêmement hétérogène entre des communautés gréco-catholiques d'une part, des communautés de l'Église orthodoxe, du patriarcat orthodoxe d'Ukraine, qui est en fait un schisme de l'Église d'Ukraine relevant du patriarcat de Moscou, et l'Église ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou. Et je ne cite même pas la présence d'autres catholiques ou d'autres confessions protestantes, mais on voit déjà qu'il y a une très grande diversité à l'intérieur même de ce groupe de chrétiens. Et évidemment, la récupération politique de ces divergences confessionnelles sont préoccupantes dans la mesure où elles ne permettent pas de voir comment vont s'articuler aujourd'hui, au moment où on ne sait toujours pas quelle va être la sortie politique de la question ukrainienne. On ne voit pas très bien comment les chrétiens, dans leurs divergences, seront susceptibles de pouvoir servir l'unité de l'Ukraine. La contorsion aujourd'hui dans laquelle les chrétiens sont en train de se placer risque de ne pas favoriser un climat apaisé.
Nicolas Kazarian, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'IRIS et professeur à l'Institut Saint-Serge et à l'Institut catholique de Paris, interrogé par Cyprien Viette. Un symposium international de 2 jours sur la gestion des biens ecclésiastiques au service du bien commun et de la mission de l'Église se tiendra en fin de semaine à Rome sous les auspices de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique à la demande du pape François. 2 journées d'écoute et de débat auxquelles sont conviés les économes de plus de 500 instituts de vie consacrée venus du monde entier. Ces instituts ont toujours joué un rôle important dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la promotion de la personne humaine dans la société. Dans un contexte marqué par des mutations d'ordre juridique et économique, une réflexion sur l'administration des biens ecclésiastiques s'impose. Le président du Conseil pontifical Justice et Paix a critiqué la législation anti-homosexualité promulguée en Ouganda et qui a suscité une vive réprobation dans les pays occidentaux. Le cardinal Peter Turkson a lancé un appel pour que les peines sévères prévues par la loi soient abrogées. Le président Museveni a promulgué le 24 février un ensemble de lois qui interdit notamment toute promotion de l'homosexualité et rend obligatoire la dénonciation des homosexuels dans un pays où ils risquaient déjà la prison à vie. Interrogé par les journalistes, texte en marge d'une conférence sur les droits de l'homme réunie à Bratislava, le cardinal Turkson a souligné que les homosexuels n'étaient pas des criminels et ne devaient donc pas être punis par la loi. Suite à la promulgation de cette loi, plusieurs pays, ainsi que la Banque mondiale, ont annoncé la suspension de leur aide à l'État ougandais. Le Saint-Siège condamne la loi ougandaise qui durcit la répression de l'homosexualité, mais n'approuve pas pour autant ces mesures de représailles. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican en français.